Nous allons maintenant passer à Monsieur François Cillion.
Je vais essayer de faire assez vite. De toute façon, je vois bien depuis que je suis arrivé tout à l'heure que j'ai affaire ici à des vrais spécialistes. Donc moi, je ne suis pas un spécialiste de ces questions-là. Je suis depuis un an directeur général délégué à la science d'INRIA. Donc ce que je vais vous présenter, c'est la démarche qu'on a. Je me situe d'ailleurs dans une grande continuité avec mes prédécesseurs qui ont initié cette politique. Et l'intérêt, j'espère, de ce que je vais vous dire, c'est de vous montrer comment, dans un cadre qui n'est pas forcément généralisable, qui est celui d'INRIA, on a pu définir une politique et arriver à susciter l'adhésion des chercheurs et donc arriver à un certain nombre de résultats. Je crois qu'il faut taper un mot de passe.
Oui. Je suis désolé, votre ordinateur.
Ah, mais il n'y a pas de problème, il est là juste derrière Claude Kirchner. Si vous pouvez vous l'attraper. Alors, Donc, je vais déjà vous dire deux mots sur ce qu'est INRIA, parce que je ne sais pas si tout le monde connaît. INRIA, c'est un EPST, d'accord. Donc, c'est un mini CNRS, si vous voulez, vraiment mini. Notre PDG aime bien dire qu'on est le plus petit des gros instituts de recherche ou le plus gros des petits. Bon. Donc, c'est à peu près, en comptant très large, 4500 personnes. On compte vraiment très large, c'est-à-dire qu'on compte les personnels qui ne sont pas payés par l'INRIA et qui sont dans les équipes projets communes, etc. Mais ça vous donne une idée. Et par contre, thématiquement, on est spécialisé donc sur les sciences du numérique, c'est-à-dire en gros informatique, maths appli. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que ça veut dire qu'on a un public déjà un petit peu sensibilisé quand même aux enjeux du numérique. C'est peut-être pas tout à fait pareil quand on parle, on entendait tout à l'heure, de théologie ou dans des domaines où peut-être les gens ont moins l'habitude de manipuler les outils, les données et la réflexion sur ces sujets-là. Un autre point que je voudrais mentionner, c'est que donc INRIA est organisé d'une façon qui est un petit peu particulière, c'est-à-dire qu'il y a 8 centres de recherche qui sont donc disséminés sur le territoire. Et dans ces centres de recherche, vous avez ce qu'on appelle des équipes projets. Et une équipe projet, je ne vais pas vous expliquer en détail comment ça fonctionne, mais c'est une vingtaine de chercheurs, des permanents, des non-permanents, des doctorants, etc. Et donc, ces équipes projets sont rattachées à des centres, et des centres, il n'y en a que 8. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que cette organisation, elle fait que, finalement, il y a peu de niveaux hiérarchiques, il y a une assez grande facilité à contacter les chercheurs, à leur expliquer une politique qui est celle de l'Institut, et à avoir un dialogue avec eux, à en discuter avec eux, et donc, il y a assez peu d'étages, si vous voulez, de rouages dans les engrenages pour arriver... Excusez-moi, je vais lancer la présentation. Magnifique. Merci beaucoup. Donc, je vais du coup sauter allègrement mes premiers transparents qui vous montrent simplement la localisation des 8 centres de recherche. Voilà. Donc, l'équipe projet, le point important, c'est que c'est relativement peu de personnes. Un autre point important, c'est que quand on crée une équipe projet, on lui donne une assez grande autonomie. On l'évalue au bout de 4 ans. Mais c'est marqué quelque part ici qu'il y a une grande autonomie, voilà, autonomie financière et scientifique. Ça veut dire que c'est un petit peu des petites PME. Le responsable d'équipe projet, il mène sa barque pendant 4 ans. Et donc, il faut qu'on arrive à le convaincre quand même. Si on veut arriver à mettre en œuvre une politique, notamment en termes d'open access, il faut passer par la conviction sur les équipes projet. Alors, un tout petit peu de contexte, mais là, je parle à des spécialistes, donc vraiment, tout ça, c'est des choses que vous maîtrisez encore mieux que moi, mais ça fait déjà 10 ans, je pense, qu'on se pose des questions sur... Et qu'il y a eu une décision, d'ailleurs, on ne fait pas que se poser des questions, il y a eu des décisions fortes qui ont été prises d'aller vers le système des archives ouvertes. Donc, je ne vous redétaille pas ici tous les points qui peuvent être importants là-dessus. Peut-être qu'il y en a un sur lequel je peux insister, c'est le fait que l'histoire du Citation Index et des outils bibliométriques qui existent pour mesurer l'importance d'un certain nombre de publications, il faut voir que les outils bibliométriques, Scopus, Web of Science, etc., couvrent assez mal nos disciplines, pour tout un tas de raisons, notamment le fait qu'en informatique en particulier, les gens publient beaucoup dans des conférences et pas tellement dans des journaux. Donc, c'est des outils qui ne nous donnent pas aujourd'hui l'outillage dont on aurait besoin éventuellement, ce qui est une incitation supplémentaire, de notre point de vue, à aller vers des systèmes qu'on peut maîtriser et dans lesquels on peut rapatrier n'est pas le bon terme, maîtriser l'ensemble de notre production. Alors, je voulais lister ici quelques facteurs favorables, de mon point de vue, qui ont fait que, dans le contexte d'INRIA, c'était un peu plus facile de mettre en œuvre une politique comme celle que je vais vous décrire. Bon, les chercheurs qui sont ouverts à ces questions-là, la couverture qui n'est pas satisfaisante avec des outils existants qui fonctionnent déjà sur les bases de publication des éditeurs, le fait que dans notre domaine, il y a assez peu de journaux aujourd'hui qui fonctionnent sur un mode d'APC et de Gold Open Access. Alors, est-ce que c'est un avantage, un inconvénient? En tout cas, ça fait qu'on arrive à être observateur sans bloquer les choses et à suivre ce qui se passe. Et puis l'organisation dont j'ai parlé, qui est le fait qu'on peut assez facilement, il y a assez peu d'intermédiaires pour parler aux chercheurs. Moi, si je veux parler aux chercheurs, c'est assez facile d'avoir leur oreille. Est-ce que j'arrive à les convaincre? C'est une autre question. Et puis, un rapport annuel qu'on produit tous les ans, qui est quelque chose de très structuré, qui rythme vraiment la vie de l'Institut, ce qu'on a outillé, qui fait que les équipes ont l'habitude, qui est fait à la granularité des équipes projet. Et je vais y revenir, c'est un levier qu'on a utilisé pour mettre en œuvre notre politique. Et puis on a organisé donc au sein de notre ligne IST un pôle archive ouverte. Il a été question beaucoup de moyens, j'ai entendu quelques questions là-dessus. Donc c'est à peu près 5 ETP aujourd'hui qui sont dans ce pôle archive ouverte. Alors, on a décidé il y a quelques années d'aller vers une obligation, je vais dire comme ça, de dépôt donc systématique de toute publication faite dans une équipe projet INRIA dans l'archive ouverte HAL. Les objectifs, bon, vous connaissez l'intérêt d'avoir une archive ouverte. D'ailleurs, ça a été bien décrit tout à l'heure par la personne de Strasbourg, que je ne vois plus. Voilà, donc les objectifs sont un peu les mêmes. Nous, on est trop petits, évidemment, pour, j'ai envie de dire, réinventer la roue et faire quelque chose juste avec nos petits bras. Donc, c'était évidemment avec HAL qu'on a décidé de le faire. Un point très important, et le dernier point, c'est que pour pouvoir mettre en place une obligation. Alors, on peut toujours décréter une obligation, ça, il n'y a pas de problème. Il a été question tout à l'heure de carotte, bâton, etc. La carotte était importante aussi, et je pense qu'il est très important de fournir des outils qui vont apporter un bénéfice aux chercheurs, pas juste une obligation nue. Donc, on a investi, alors il y a HAL, et puis on a un portail particulier qui s'appelle HAL INRIA, et on a développé des outils particuliers qui d'ailleurs n'ont pas vocation à rester pour l'usage exclusif d'INRIA, hein. Tout ça est maintenant géré au niveau du CCSD, mais on a développé des outils en partant des besoins qu'on identifiait immédiatement sur le terrain dans nos équipes pour faire de la reprise de bibliographie, donc pour l'historique, pour pouvoir faire des extractions qui soient utiles pour que le chercheur puisse automatiquement avoir sa page web, par exemple, personnelle, professionnelle, alimentée par l'ensemble de ses publications. Et puis, on a poussé pas mal pour qu'on puisse associer les données à des dépôts sur HAL. Bien sûr, il y a encore beaucoup de choses à faire, notamment pour toutes les données de la recherche. Mais typiquement, on a beaucoup d'équipes qui travaillent sur l'image, pouvoir associer des images, des vidéos, des diagrammes à des publications. Alors, ce graphique, il est intéressant. Il vous montre en bleu la courbe du nombre de publications au cours des années. Et vous voyez quand même que ça a pris presque 10 ans pour arriver. La courbe rouge ici, en fait, j'ai le même schéma, mais en pourcentage. Donc, celui-ci est plus intéressant. Il n'est pas très différent, mais ça vous montre juste en rouge le pourcentage des publications des équipes projet qui sont déposées dans HAL. Alors, en fait, il s'est passé quand même quelque chose en 2011 ou 2012, je ne sais plus, où on a dit maintenant c'est obligatoire. Avant, c'était une forte incitation avec un accompagnement au niveau des centres de recherche, au niveau du réseau IST, etc. Et puis c'est devenu une obligation, c'est-à-dire que ce qu'on a dit, c'est, comme ça a été dit pour Strasbourg tout à l'heure, on ne prendra plus en compte dans le rapport annuel et pour les évaluations que ce qu'on pourra extraire de HAL. Notez quand même qu'il a fallu un certain nombre d'années pour y arriver. Donc je ne sais pas si l'échéance de dire pour l'évaluation de l'année prochaine, il faut que tout soit déposé est vraiment réaliste. En vert, vous avez le texte intégral. Il y avait une question tout à l'heure sur, finalement, est-ce que les gens déposent uniquement une notice ou le texte intégral. Vous voyez qu'on est... je pense qu'on n'est pas mauvais, mais on n'est pas à 100%, évidemment, de dépôt de texte intégral. Alors, on vient de remettre à jour la position et l'incitation, c'est plus qu'une incitation, la doctrine INRIA pour nos chercheurs. Donc, ça tient en cette reformulation de l'obligation de dépôt, où on a précisé un certain nombre de choses. Donc, ça, on vient de le faire, on vient de produire une note officielle du PDG à cet effet. Donc, déjà, tout ce qui est rapport d'activité, évaluation, c'est fait à partir de ce qui est dans HAL. Donc, les chercheurs le savent, et maintenant, il y a eu quelques grincements au début, mais les grincements étaient plus liés à la lourdeur supposée ou ressentie par certains du dépôt effectif dans l'archive, c'était pas une opposition de principe. Donc ça va beaucoup mieux avec tous les outils qui ont été développés. L'obligation, notez-le, c'est maintenant une obligation de dépôt du texte intégral. Alors attention, je pense qu'il y aura des questions de spécialistes là-dessus. Est-ce qu'on a le droit? Est-ce qu'on peut toujours déposer le texte intégral? À quel moment? Est-ce qu'il y a des cas particuliers? Oui, il y a certainement des cas particuliers. Nous, ce qu'on veut, c'est avancer et que la politique, la cible soit claire. Et puis après, on gérera les éventuelles difficultés de cas particuliers. Notre vision, c'est que la version auteur, ça a été, il y avait la question tout à l'heure, la version auteur, de notre point de vue, peut et donc doit être déposée. Donc ça, les questions d'embargo, de notre point de vue, c'est une non-question, c'est une question qui vient après, c'est-à-dire est-ce que la version qui est publiée par l'éditeur peut être déposée. Nous, notre position, c'est que la version auteur, à moins qu'il y ait eu une cession de droit d'auteur contre rémunération par l'auteur, mais enfin, ce qui n'arrive quasiment jamais, cette version auteur peut et donc doit être déposée. Voilà. Par ailleurs, on encourage évidemment à ce que les gens déposent le plus tôt possible. Donc, le point d'information des co-auteurs est important. Alors, ces slides ont été repris d'une présentation qu'on fait justement à nos chercheurs. On leur demande d'informer leurs co-auteurs aussi pour expliquer et donc évangéliser un petit peu cette position. Je pense que c'est quelque chose d'important. Voilà la question de la licence. Donc, bon, tout ça est cadré. Les chercheurs savent que la version auteur, ils peuvent la déposer dans une licence Creative Commons avec attribution. Et on les incite à se méfier. Alors, le terme est un petit peu fort, peut-être, de miroir aux alouettes, mais on les incite à se méfier d'offres qui sont séduisantes, qui aujourd'hui fournissent effectivement un service. Donc, on ne peut pas les balayer d'un revers de main, mais dont la pérennité n'est pas garantie. Donc, on leur dit, allez-y si vous le souhaitez, si vous y avez un intérêt de votre point de vue. Mais par contre, déposez tout de même dans HAL et puis référencez éventuellement sur ResearchGate ce que vous avez déposé dans HAL. Donc, voilà notre position sur le dépôt dans HAL. J'insiste sur le fait que, évidemment, ce n'est pas forcément généralisable comme ça à d'autres situations, mais ça s'est, jusqu'à aujourd'hui, relativement bien passé. Vous avez vu les courbes qui témoignent du taux de dépôt, y compris d'ailleurs en texte intégral, auquel on est arrivé aujourd'hui. Alors, quelques mots sur notre position sur les APC. Alors, je ne vous fais pas l'injure, ça c'est des slides pour nos chercheurs, donc je ne vous fais pas l'injure de vous expliquer le modèle auteur-payeur. Juste, certains ont demandé les chiffres. Alors, évidemment, INRIA n'est pas très grand. Notre budget d'abonnement, c'est à peu près 830 000 euros, d'accord. C'est clair que mais ça, c'est des chiffres, je suppose, qui sont à peu près constants, c'est-à-dire que si on basculait tout en APC, ça nous coûterait 3 fois plus cher ou 3,5 fois plus cher. Alors, aujourd'hui, on a donc la chance, comme je le disais, qu'on a relativement peu de journaux qui sont dans notre cœur de métier qui fonctionnent dans ce modèle-là. Il y en a, à vrai dire, quasiment pas. C'est-à-dire que c'est surtout nos chercheurs qui travaillent aux interfaces du numérique, avec, par exemple, la biologie, qui, eux, vont se retrouver face à des pratiques et des situations qui sont assez différentes. Donc, notre politique vis-à-vis de nos chercheurs, elle est résumée dans ces quelques slides. D'abord, on n'interdit pas la publication. Ça peut paraître étonnant que je dise ça, mais c'est une question qu'on a pu se poser, puisqu'encore une fois, pour nous, c'est relativement marginal ou périphérique. Donc, on ne l'interdit pas. On considère que si les chercheurs nous expliquent que c'est ce qu'il faut faire dans leur discipline et que la communauté fonctionne comme ça, on peut le comprendre. Par contre, on a mis en place un budget centralisé pour éviter que chaque équipe projet, dont j'ai dit que c'était un peu une PME autonome, finalement se dise « bon, bah, moi j'ai quelques articles à publier, ce n'est pas un problème, et donc je le prends sur mes crédits de contrat d'ANR ou autre ». Donc on veut être certain que cette dépense-là est clairement identifiée pour pouvoir aussi être suivie et maîtrisée. Et on a un discours vis-à-vis des chercheurs qui est assez fort de leur dire « on refuse absolument un modèle hybride, donc ça c'est, par contre ça c'est niet, donc s'il y a des journaux pour lesquels c'est à la fois abonnement, enfin fromage et dessert, là on dit non ». Oui, et que par contre, on les incite quand même beaucoup à se poser la question. C'est-à-dire, autant quelqu'un qui travaille dans la bioinformatique va nous expliquer qu'il veut, je ne connais pas le nom des journaux, je suis désolé, mais il veut publier dans tel journal qui fonctionne sur ce modèle-là et que c'est vraiment crucial pour lui, on va dire OK. Par contre, un journal qui est sur de l'informatique ou des mathématiques pour lesquelles on connaît très bien le domaine et on sait qu'il y a d'autres options, le chercheur qui dit bah, « moi, je souhaite publier dans ce modèle-là », on va le challenger un petit peu. On laisse le dernier mot aux chercheurs, j'ai parlé de la liberté de publication, on ne va pas commencer à leur dire « ce journal est interdit », mais on les incite vraiment à avoir cette réflexion et à la partager aussi, à la partager entre eux, à la partager au niveau des centres, au niveau global. Et puis, bien sûr, on en profite pour militer, pour les faire changer de modèle. C'est-à-dire que ceux qui expliquent que, ben, voilà, il y a un journal en maths, il n'y en a pas beaucoup, hein, en informatique qui se monte sur un modèle d'auteur-payeur, on va aussi essayer d'aller et de pousser de plus en plus vers la constitution d'épi-journaux. Voilà, juste pour dire que ces positions-là, elles ont été très officialisées, c'est-à-dire qu'on en a fait des notes, ce qu'on appelle chez nous des notes décisionnelles, qui ont été diffusées à tous les chercheurs, donc ils savent, quand ils se posent des questions, s'ils se disent est-ce que j'ai le droit, est-ce que j'ai pas le droit, etc., ils savent que, un, c'est la position de l'Institut, deux, l'Institut considère que c'est pas leur responsabilité à eux qui est mise en cause, c'est celle de l'Institut, dans les positions qui sont prises, et trois, ils savent qu'ils peuvent aller chercher dans chacun de leurs centres de recherche l'aide de leur service IST ou des correspondants IST dans les centres qui peuvent les aider sur des questions liées aux APC ou sur des questions un peu techniques de licence, de est-ce qu'ils ont le droit, de quelle version ils peuvent mettre, etc. Voilà, je vous remercie.
Merci. Et donc, Lydia.
Merci pour votre exposé. C'est Lydia Borel, directrice de la recherche et l'innovation à l'EUA, l'Association européenne des universités. Vous avez mentionné des collaborations de la recherche entre vos chercheurs à l'INRIA et les industries. Est-ce que vous avez trouvé si l'open access c'est une barrière ou un incentive à la collaboration entre le chercheur et l'industrie?
Pour être franc, je pense qu'on n'a rien observé. Donc je ne pense absolument pas que ce soit une barrière. Je n'ai pas observé que ce soit une incitation particulière vers des modèles plus ouverts, etc. À chaud comme ça, ce que j'aurais envie de vous dire, c'est qu'il faut, c'est peut-être un des cas dans lequel il faut faire attention par rapport à un dépôt de full text, par exemple, qui est de savoir si les travaux ont été menés dans le cadre d'une collaboration qui, pour le coup, non pas du tout du fait de l'éditeur, mais du fait du financement ou d'un contrat industriel, impose des règles particulières sur les modalités de publication. Mais ça, en général, quand il y a ce genre de clause, c'est plutôt de revoir le contenu de la publication. Il peut y avoir quelquefois des questions de délai liées à des dépôts de brevets, etc. Donc je pense qu'il faut les gérer en tant que tels. Mais sur savoir si le modèle de déposer en open access est soit un frein, soit une incitation, moi je pense que c'est neutre.
Là, peut-être pour reprendre ce que vous venez de dire, il ne faut jamais confondre open access et publication. Donc la décision de publication, elle est prise une fois que quelque chose est publié. Il est public et qu'il soit en open access ou en closed access ou en n'importe quoi, mais s'il est publié dans un article imprimé quelque part, c'est fait, c'est fait. Donc la décision par rapport à un brevet ou par rapport à une restriction avec un industriel, elle est toujours préalable à la décision de publier. Après, que ce soit publié comme ci ou comme ça, c'est exactement la même chose.
La seule petite, si je peux me permettre, c'est qu'on incite nos chercheurs à déposer le plus tôt possible.
Oui.
Et donc, y compris à déposer éventuellement des rapports de recherche,
oui,
qui ne sont pas encore forcément véritablement la soumission à un processus de revue qui soit formalisé. Mais ça, on le gère depuis toujours. C'est-à-dire que ces rapports de recherche, bien entendu, si c'est dans le cadre d'une collaboration...
Oui, mais vous ne les rendez pas publics, quand même.
Ah, les rapports de recherche, ils sont publics. C'est une... Alors, oui, d'accord. Ouais. En fait, c'est une publication, mais c'est une publication INRIA. Oui. Donc, mais effectivement, c'est une publication. Je retire mon objection.
D'accord. Oui,
Nicolas Larcon, Université de la Réunion. C'est pas de question, mais c'était juste pour parler des outils que vous mettez à disposition autour de HAL, notamment HAL Tools ou BIP2HAL, qui sont très, très, très utiles aux personnes, aux administrateurs de portail, qui permettent vraiment de faciliter l'import et la relation chercheur avec la création de services. Et je voudrais vous remercier pour cela. Voilà, merci.
Et ben voilà. Un dernier chaleureux applaudissement. Merci beaucoup.